Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine-Art-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Arrêtez de trop penser, de Federica Ugolini, est un guide pratique de développement personnel consacré aux pensées excessives, à l'anxiété, aux doutes et à la surcharge mentale. Le livre part d'un constat simple, réfléchir sans interruption dans l'espoir de prévenir les difficultés ou de tout maîtriser peut produire l'effet inverse, en augmentant la tension, la frustration et l'indécision. Son objectif n'est donc pas de supprimer toute réflexion, mais d'aider le lecteur à reconnaître les moments où celle-ci devient répétitive, envahissante ou peu utile. L'ouvrage propose des stratégies concrètes, des exercices et des mini-habitudes destinées à alléger le quotidien et à retrouver une relation plus souple avec ses préoccupations. Les informations disponibles le présentent comme un texte accessible, orienté vers la mise en pratique immédiate et l'adaptation des méthodes aux besoins de chacun. Il s'adresse ainsi à des lecteurs qui souhaitent mieux comprendre leur rumination et disposer de repères opérationnels pour réduire leur emprise sur le travail, les relations et le temps présent. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, distinguer la réflexion utile de la rumination qui épuise. Le point de départ du livre consiste à traiter la surpensée comme un mécanisme identifiable plutôt que comme un simple défaut personnel. Réfléchir peut être utile lorsqu'il s'agit de comprendre une situation, de choisir entre plusieurs options ou de préparer une action. Le problème apparaît lorsque la pensée tourne en boucle sans produire de décision, de gestes concrets ni informations nouvelles. Dans cette configuration, la recherche de certitude entretient souvent l'incertitude elle-même. Plus une personne examine chaque scénario possible, plus elle peut découvrir de nouveaux motifs de crainte. Le livre relie ce processus à l'anxiété, aux doutes persistants et à une diminution de la disponibilité mentale. Cette distinction est importante sur le plan pratique. Elle invite le lecteur à ne pas juger chaque pensée comme mauvaise, mais à évaluer sa fonction, aide-t-elle réellement à avancer ou maintient-elle un état d'alerte sans issue. Une telle lecture du problème permet de sortir d'une opposition simpliste entre penser et ne pas penser. L'enjeu devient de limiter les séquences mentales qui consomment de l'énergie sans résoudre la difficulté. Les conseils annoncés visent précisément à rendre cette observation utilisable dans des situations ordinaires, avant que la surcharge cognitive ne pèse durablement sur la qualité de vie. Deuxièmement, comprendre le rôle des peurs, du perfectionnisme et de la procrastination. L'ouvrage associe les pensées excessives à plusieurs dynamiques fréquemment liées à la peur, l'anxiété, le perfectionnisme et la procrastination. Ces éléments ne désignent pas nécessairement une même expérience chez tous les lecteurs, mais ils peuvent se renforcer mutuellement. La peur pousse à anticiper les risques. Le perfectionnisme cherche une réponse irréprochable. L'anxiété rend l'avenir plus menaçant. La procrastination retarde l'action lorsque celle-ci paraît insuffisamment sûre ou parfaite. La pensée devient alors une manière de différer l'exposition à l'incertitude. Cette perspective éclaire pourquoi une grande activité mentale ne se traduit pas toujours par une action efficace. On peut passer beaucoup de temps à planifier, comparer ou revoir une décision tout en évitant le premier pas qui donnerait des informations réelles. Le livre propose d'alléger cet enchaînement par des techniques pratiques plutôt que par une injonction vague à se détendre. Son intérêt réside dans le déplacement de l'attention. Il ne s'agit pas de résoudre tous les scénarios imaginés, mais de repérer les habitudes mentales qui les alimentent et de retrouver une marge de choix en traitant ces mécanismes ensemble. Le guide donne un cadre utile pour comprendre que le surcroît de réflexion peut être moins un signe de maîtrise qu'une tentative coûteuse de se protéger de l'erreur, du jugement ou de l'imprévu. Troisièmement, utiliser des exercices pour transformer une prise de conscience en pratique. La présence d'exercices constitue un élément central du positionnement du livre. Comprendre qu'on rumine ne suffit généralement pas à modifier une habitude mentale installée, surtout lorsque celle-ci se déclenche sous l'effet du stress. Les activités proposées sont présentées comme des moyens de passer de l'observation à l'expérimentation personnelle. Elles offrent au lecteur un cadre pour repérer son état d'esprit, essayer une stratégie et observer ce qui réduit ou non la pression intérieure. Cette dimension opérationnelle évite de limiter le livre à une explication générale des pensées excessives. Elle reconnaît aussi qu'une technique ne convient pas nécessairement à tous de la même manière. Les retours disponibles soulignent d'ailleurs la possibilité d'identifier les approches les plus adaptées et de les approfondir grâce aux indications fournies. Cette logique d'essai, d'ajustement et de répétition est cohérente avec le sujet. Une personne qui cherche la méthode parfaite risque de prolonger son hésitation. Les exercices peuvent au contraire ramener l'attention vers une action limitée et vérifiable dans le présent. Le livre ne doit pas être compris comme un substitut à un accompagnement médical ou psychologique lorsque la souffrance est importante, mais comme une ressource d'auto-observation et d'organisation personnelle. Sa valeur pratique dépend donc moins d'une lecture rapide que de la régularité avec laquelle le lecteur teste les propositions et ajuste leur usage à son contexte. Quatrièmement, installer des mini-habitudes pour réduire la surcharge au quotidien, le sous-titre met explicitement en avant les mini-habitudes, ce qui distingue l'approche d'un programme fondé sur des changements spectaculaires. Face à la surcharge mentale, viser immédiatement un contrôle total de ses pensées peut devenir une nouvelle source de pression. Des gestes brefs et répétés sont plus compatibles avec un quotidien déjà encombré par les obligations, les inquiétudes et la fatigue. Dans le cadre du livre, les mini-habitudes servent à créer des occasions régulières de ralentir, de prendre du recul et de ne pas laisser chaque inquiétude occuper tout l'espace disponible. Leur intérêt ne tient pas à une promesse de calme permanent, mais à leur capacité à interrompre progressivement certains automatismes. Une pratique modeste est aussi plus facile à maintenir lorsqu'une journée difficile réduit la motivation ou la concentration. Cette orientation répond au lien établi par l'ouvrage entre pensée excessive, productivité et relations importantes. Lorsque l'esprit est continuellement absorbé par les scénarios, il devient plus difficile de terminer une tâche, d'écouter autrui ou de profiter d'un moment sans le commenter intérieurement. Les habitudes courtes peuvent ainsi être envisagées comme des repères comportementaux qui redonnent une place à l'action et à la présence. Le livre privilégie une amélioration progressive et personnalisable plutôt qu'une solution universelle ou une discipline rigide. En dernier lieu, retrouver une présence plus disponible dans les relations et les moments vécus, le livre présente la surpensée comme un phénomène dont les effets dépassent l'inconfort intérieur. Lorsque les préoccupations, les regrets ou les anticipations monopolisent l'attention, la personne peut être physiquement présente tout en restant mentalement absente de son activité ou de ses proches. Cette dispersion peut affecter la productivité, mais aussi la qualité des relations importantes, car l'écoute, la spontanéité et la capacité à répondre au moment présent s'en trouvent réduites. L'objectif d'alléger l'esprit possède donc une dimension relationnelle et existentielle, pas uniquement organisationnelle. Il ne s'agit pas d'encourager l'insouciance ni de nier les problèmes réels. Il s'agit plutôt de ne pas accorder automatiquement à chaque pensée anxieuse le statut d'urgence ou de vérité définitive. Cette nuance est essentielle, les difficultés demandent parfois une analyse et une décision. Tandis que les scénarios répétés demandent surtout une capacité à revenir à ce qui peut être fait maintenant. Les exercices et les suggestions concrètes annoncées par l'ouvrage prennent leur sens dans ce retour vers l'expérience immédiate. Des lecteurs mentionnent notamment le lâcher-prise et le fait de mieux vivre l'instant présent. Ces bénéfices doivent être compris comme des effets possibles d'une pratique suivie, non comme une garantie. Le livre offre avant tout des outils pour rééquilibrer la tension entre les préoccupations mentales et la vie activement en cours. En conclusion, arrêter de trop penser s'adresse en priorité aux lecteurs qui se reconnaissent dans les ruminations, l'anticipation incessante, la difficulté à lâcher une décision ou la tendance à repousser l'action par peur de mal faire. Il peut convenir à ceux qui recherchent un guide bref et concret, davantage orienté vers des exercices et des habitudes applicables que vers une présentation théorique approfondie de la psychologie clinique. Son bénéfice potentiel est double mieux nommer les mécanismes qui alimentent la surcharge mentale, puis disposer de points d'appui simples pour interrompre certains automatismes au quotidien. Le livre peut également intéresser les personnes dont les pensées envahissantes diminuent la concentration, la disponibilité relationnelle ou la capacité à apprécier les périodes de repos. Par rapport à de nombreux ouvrages sur le lâcher-prise ou la pensée positive, sa spécificité tient à son centrage explicite sur les pensées excessives et à l'association de stratégies, d'exercices et de mini-habitudes. Cette combinaison favorise une démarche graduelle, observer, tester, retenir ce qui est utile et personnaliser les pratiques. L'ouvrage ne promet pas d'éliminer toute inquiétude, ce qui serait irréaliste, mais vise une relation moins envahissante avec les scénarios mentaux. Sa lecture sera particulièrement pertinente pour une personne prête à expérimenter régulièrement les outils proposés. En cas d'anxiété intense, durable ou fortement invalidante, il constitue une ressource complémentaire et non un remplacement d'une aide professionnelle adaptée. Si vous souhaitez soutenir Federica Ugolini, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.